Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours.
Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun.
Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit.
Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur.
Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute.
Votre site internet WordPress chouchouté, surveillé et au meilleur de ses performances toute l'année? Avec le service de maintenance WordPress de Maje, votre site vitrine ou e-commerce est protégé et techniquement optimisé 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Détection des failles de sécurité, sauvegarde quotidienne, monitoring du site et remise en ligne en cas de problème, mise à jour des extensions WordPress, l'équipe de Maje assure la maintenance de votre site de A à Z. Adieu les mises à jour qui font planter le site, plus d'emails de clients pour prévenir que le site est inaccessible. Avec le service de maintenance clé en main de Maje, gagnez des heures de travail, évitez les opportunités perdues et les prises de tête sur votre site internet. Chez My Marketing Experience, Maje gère la maintenance technique de notre site et de ceux de nos clients et on apprécie particulièrement leur réactivité et leurs conseils avisés. Pour tout savoir sur les offres de maintenance et d'assistance WordPress de Maje, rendez-vous sur maje.mc/mmx/maintenance-wordpress ou cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez choisi, puisqu'il y a quelques jours, j'ai fait un sondage sur mon profil LinkedIn en vous demandant quel sujet vous intéresserait le plus pour un épisode en duo, Laurie et moi. Et le sujet qui est arrivé numéro un, c'est les raisons d'échec les plus fréquentes qu'on a rencontrées chez nos clients ou chez nos prospects. Donc voilà, c'est le thème du jour, c'est le thème de l'épisode. On va parler d'échecs, ou plutôt des raisons d'échecs. Et Laurie, je crois que tu en as pas mal à dire sur le sujet.
Oui, c'est vrai qu'on en a vu, pas mal passer. Bah, ça fait, parfois, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais il y a quand même des grands schémas qu'on a pu identifier, des situations particulières où on a vu qu'effectivement, bah, ça avait été une cause d'échec, ou on va dire de très grande fragilité pour nos clients ou des entrepreneurs qu'on a eu l'occasion bah, de rencontrer.
Effectivement, ce sont des raisons d'échec, mais ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut tous en tirer des leçons. Et c'est un peu l'idée de cet épisode, en fait. C'est pas juste de condamner des échecs, c'est plutôt de dire, bah voilà ce qu'on a rencontré le plus souvent et comment pas tomber dans ces écueils. Alors attention, hein, on va quand même normaliser l'échec. C'est tout à fait normal que sur 100 entreprises qui se lancent, il y en ait, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais il y en ait plus de la moitié qui se plantent. C'est tout à fait normal. Là, ce qu'on est en train d'étudier ici, dans cet épisode, c'est pourquoi, quelles sont les raisons les plus fréquentes à ces échecs. Alors, vous ne le voyez pas, hein, pour ceux qui écoutent cet épisode en audio, ce que vous ne voyez pas, est-ce que moi, je ne vois que ça sur mon écran, c'est que Laurie et moi, on est habillés pareil aujourd'hui avec une marinière. C'est vraiment les aléas, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas du tout consulté, on est dimanche, on s'est juste connecté ensemble pour faire cet épisode et on découvre qu'on a le même t-shirt. Donc, ça me fait super rigoler. Pour ceux qui le voient en vidéo, bah, vous voyez quelle est notre vie. C'est ça, c'est d'arriver au bureau habillé pareil. Donc, c'était juste pour l'anecdote. Et bon, ça va, je t'ai pas envie de te changer. On a le droit à ce moment-là. Il y a prescription maintenant.
Non, et puis la marinière, c'est chic. Moi, j'adore ça. Je sais que toi aussi, du coup.
Comme tu peux le voir. Ok, alors on va tout de suite commencer cet épisode avec les raisons d'échec des entreprises. Quelle est pour toi, alors je crois qu'on en a 5 ou 6 à peu près en liste. Est-ce que tu peux commencer toi par une des raisons d'échec que tu as constaté le plus souvent?
La première raison qu'on a identifiée, c'est quand les entrepreneurs, ils passent leur vie à structurer. Tu vois, ils revoient leur business plan régulièrement, tout le temps en fait. C'est ce qu'on entend dire, faut que je bosse sur ma stratégie. Pendant des mois et des mois, alors qu'en fait, il faut d'abord montrer qu'il y a un marché. Le vrai bon comportement, c'est effectivement de définir une stratégie. Moi, je pense que se lancer comme ça en mode on y va et on verra, avoir quand même un minimum de billes et pour aller sur le marché, aller se frotter au marché. Mais par contre, il faut y aller et passer sa vie à structurer. En fait, on peut revoir sa stratégie et revoir son business model une fois qu'on est allé à la rencontre du marché, une fois qu'on est allé rencontrer ses clients. Parce qu'en fait, la réponse, elle vient du marché. Elle vient pas de notre tête ou de « je vais faire comme un tel » ou « comme le concurrent » ou quoi que ce soit. Et l'objectif, c'est justement de définir cette offre le plus rapidement possible, d'aller trouver son marché le plus vite possible et de faire rentrer du cash le plus vite possible, même si le produit est imparfait, même si la stratégie va être forcément amenée à évoluer. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est montrer sa capacité à faire de l'argent. Et plus on va perdre de temps à travailler tout le temps sur sa stratégie avant de se lancer, et puis et ben finalement, on risque juste de rater le coche et d'aller sur un marché où on va se borner à vouloir vendre, alors que ben, le marché ne voudra pas de notre produit.
Mais est-ce que tu n'as pas l'impression, enfin moi c'est souvent l'impression que j'ai eue, c'est qu'en fait, c'est des conduites d'évitement en fait, c'est pour éviter d'aller vendre. On va se concentrer sur le business plan, le plan financier, enfin toutes sortes d'autres sujets que la vente, qui sont importants, hein, ça je dis pas, mais qui finalement restent très intellectuels et pas du tout opérationnels. Alors quand je dis intellectuel, ça veut dire intellectuel et stratégique, et pas du tout opérationnel. Et finalement, bah, en fait, on va juste se trouver, on est occupé, on a l'impression de faire quelque chose, mais on va pas vendre.
On rencontre beaucoup de monde, on va parler de notre produit, on va essayer de faire du networking. Mais c'est vrai que cette rencontre du marché où on va aller vendre, où on va passer à l'action, je pense qu'il y a aussi la peur de se dire on a mis tellement d'énergie, tellement peut-être de rêves aussi dans ce produit. Alors quand je dis produit, c'est produit ou service, que j'imagine qu'il peut y avoir peut-être une appréhension du rejet, tu vois. Est-ce que ça va être bien être accepté? Alors qu'en réalité, eh bien, plus on va aller justement sur le terrain, parler de notre produit, essayer de le vendre, plus ben, le marché va nous donner rapidement son feedback, son retour, et on va pouvoir ajuster notre produit, notre service, ajuster notre stratégie. Peut-être que la cible qu'on avait identifiée au départ, c'était pas forcément celle qui correspond parfaitement, tu vois, l'adéquation, le product market fit, l'adéquation produit-marché n'est peut-être pas idéale telle qu'on l'avait pensée initialement. Mais ma foi, je dirais que c'est la vie, et le meilleur moyen de le savoir et de faire rapidement ensuite de l'argent, d'ajuster le tir, c'est justement d'arrêter d'intellectualiser ça trop longtemps et d'aller sur le terrain se confronter au marché.
Vous avez compris, arrêtez de faire des plans de chasse, allez chasser. Il faut y aller au bout d'un moment. Donc ça, c'est vraiment une raison d'échec qu'on a vue très, très, très souvent. La deuxième raison d'échec qui revient, c'est un peu une variante de la première, c'est de passer tout son temps sur le développement de son produit. Ajouter une énième fonctionnalité plutôt que d'aller essayer de le vendre. C'est d'aller sortir, décliner une gamme dans plein de couleurs, plein de variantes, plutôt que d'aller vendre déjà la première qui ne se vend pas si bien que ça. Je me souviens qu'on a vu un client, on peut le dire maintenant, il y a prescription, puisqu'ils faisaient ils existent toujours ou ils ont définitivement arrêté?
Ils existent toujours. Mais le problème, c'était qu'effectivement, ils avaient des très bons produits, mais ils ont voulu les décliner d'abord avant d'aller vendre. Ils l'ont décliné en X couleurs, personnalisables. Et ensuite, avant de mettre l'énergie pour aller vendre ce produit déjà bien décliné dans plusieurs couleurs, ils ont mis beaucoup d'énergie et de budget à créer un deuxième produit.
Ça te rendait dingue. À chaque fois, tu me disais, ah, ils m'énervent, ils ont encore sorti un produit, alors que le premier, il se vend déjà pas tellement. Il pourrait se vendre, mais ils mettaient pas les ressources dessus, en fait.
Exactement. Et justement, en fait, pour pouvoir créer ce nouveau produit ou développer cet autre produit, ce qu'il aurait fallu, c'était déjà de générer du cash sur le premier produit qui était créé, qui lui existait et qui était très bon, en plus. Mais il n'y avait pas besoin d'en faire 12 couleurs différentes. Le vendre déjà dans une seule couleur. Et ensuite, effectivement, peut-être parce que c'est sympa dans certains types de produits de décliner dans une couleur, mais déjà, vendons-le dans une couleur avant de la décliner. Vendons-le bien avant de faire un autre produit.
Là, ça vaut pour toutes les offres.
Ça les avait mis dedans. Ouais.
C'est-à-dire que ça vaut, quand on lance une première offre, on va déjà essayer de vendre celle-là avant d'aller faire de la R&D. Alors, je parle surtout pour de la R&D, hein, avant d'aller investir encore du budget et du temps dans le développement d'un nouveau produit. Après, si c'est budget limité, je dirais pourquoi pas, mais là, on n'était pas du tout en présence d'un budget limité. C'était un budget qui devait être évidemment géré, arbitré, et ça les avait mis dedans, parce qu'en fait, à force de se diversifier trop vite, ils avaient littéralement, on va dire, cramé le budget, et bah, ça a fini à pas assez de ventes, pas assez de cash qui rentre, et redressement judiciaire. Alors, ils ont eu de la chance parce qu'ils ont été sauvés, Mais pour un qui est sauvé, il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés, en fait, hein, et on en a vu.
Oui,
et
puis le potentiel, il y est. Je veux dire, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait la demande, il y avait, c'était vraiment une mauvaise gestion.
Donc, on va le redire, il y avait la demande, il y avait l'adéquation produit-marché, il y avait la qualité, il y avait des références clients. Et pourtant, aller se diversifier trop vite, bah, ça les a tués, presque tués.
Ça les a mis dans une situation très inconfortable.
Ouais, très, très inconfortable. Et pour nous, ça veut dire aussi avoir perdu le client. Et ce n'était pas du tout la faute du marketing, parce que pour le coup, nous, on n'avait pas du tout la main mise sur le développement produit. On peut mettre toutes les alertes qu'on veut. Bah, finalement, ça se passe chez le client. C'est eux qui décident. Mais souvent, c'est un travers qu'on a parce que pour attirer des investisseurs, beaucoup ont tendance à gonfler leur offre, à montrer qu'il y aura plein de choses à vendre. Ce n'est pas forcément une bonne stratégie de dire que vous avez plein de choses à vendre, parce qu'avoir plein de choses à vendre, ça ne veut pas dire faire plus de ventes. On confond ça dans les équations. Ce n'est pas plus j'ai deux choses à vendre, plus j'en vends. Non. Ça fonctionne quand on est sur de la fidélisation. Mais quand on est en phase de démarrage avec surtout des problèmes d'acquisition, c'est plutôt, on va dire, un boulet que d'avoir trop de choses à vendre, parce que vous allez vendre, mais en petite quantité à tout le monde, parce que vous aurez structure, les épaules pour attirer plus de monde. Et le budget, rappelons-le, hein, le budget, c'est quand même important. Donc, on peut avoir tout ça, l'adéquation produit-marché, le super produit, tout, et rater quand même.
Mais derrière, il y a toujours quand même la crainte, le fait de devoir aller vendre qui est un peu compliqué.
Oui, et le besoin d'être assuré sur le fait que tout soit parfait, que le produit soit parfait, que j'ai toutes mes offres de prête. Et ça, on l'a vu aussi dans le service. Hein. Si ce n'est pas tout prêt, tout parfait, on n'y va pas. Bon, c'est un peu très dangereux.
Après, moi, il y a une troisième raison qu'on a identifiée et qu'on n'a pas forcément eue parmi nos clients, puisqu'on a travaillé sur ce point-là avec eux, c'est les entreprises qui n'ont pas de marché et qui refusent de le voir.
Moi, je l'ai eu, hein.
Ah, tu l'as eu.
Moi, je l'ai eu.
Ah ouais. Non, moi, j'ai peut-être une fois. Mais c'est vrai que souvent, l'excuse, c'est le marché n'est pas prêt.
Les gens sont cons, ils ne comprennent pas.
Ça, c'est vrai. Non, alors, je ne l'ai pas eu en client, mais je l'ai eu en prospect il n'y a pas si longtemps. Dans ce cas-là, souvent, la faute est remise sur l'extérieur. C'est-à-dire que le dirigeant, il ne prend pas le recul de se dire « Ok, ça ne se vend pas, mais le problème, il vient peut-être de moi. » Tu vois, c'est forcément, c'est le marché ou le client qui ne comprend pas. Alors, il y a peut-être aussi le client ne comprend pas. Et dans ce cas-là, l'offre potentiellement et pas mauvaise, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème qu'elle n'est pas compréhensible par le marché, ce qui revient un petit peu au même finalement, hein, à ce qui arrive. Certes, peut-être c'est innovant et le marché ne comprend pas, mais dans ce cas-là, il faudra faire un gros travail d'éducation. Mais parfois, le marché, tel qu'on a pensé l'offre, le marché n'existe pas. Je me souviens un jour en soirée networking d'un entrepreneur qui m'avait parlé, qui avait développé déjà un produit d'art, donc qui voulait vendre cher, hein. C'était en forme de bouche, hyper stylée. Oui. Et globalement, quand tu appuyais sur un bouton, tu te souviens ?
Oui, j'en souviens.
Tu appuyais sur un bouton, en fait, ça s'ouvrait. Il y avait un écran, un affichage digital qui apparaissait avec une petite chanson et un petit clip qui durait 3 minutes, que tu pouvais tout personnaliser, OK, pour que ton enfant se brosse les dents pendant la durée du petit clip. Et une fois que les 3 minutes terminées, eh bien, en fait, la bouche se refermait et ça te faisait un très bel objet de décoration très cher dans ta salle de bain. Il me parlait de ça en me posant des questions. Et je me souviens du malaise. Je me disais, mais je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûre qu'il y a un marché? Et il me disait, oui, mais les riches, ils adorent ça et tout. Alors, bon, avant de vous lancer dans une production pour ce genre de choses, vérifiez qu'il y a un marché. Parce que clairement, moi, j'avais un gros doute et je lui ai expliqué, tu sais, ce n'est pas parce que les gens ont un très gros pouvoir d'achat qui vont acheter tout et n'importe quoi. Il ne l'entendait pas du tout. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il était très vexé du retour que j'ai pu lui faire. En même temps, il ne fallait pas poser la question dans ces cas-là.
C'est ça.
Exactement. Si tu ne veux pas entendre la réponse, ne pose pas la question. Bon, plus sérieusement, il ne faut pas forcément partir du principe qu'il y a toujours un marché pour tout. Un marché, c'est globalement, dans la plupart des cas, c'est un besoin, c'est une douleur. Souvent, on dit pas de besoin, pas de marché. Pour le marché de l'art, c'est encore autre chose. Ça répond à d'autres critères. Mais dans tous les cas, dans la plupart des cas, il faut qu'il y ait un besoin du marché. Et s'il n'y en a pas, effectivement, le marché potentiellement n'existe pas. Donc, il ne faut pas s'acharner. Et le problème ne vient pas forcément des gens qui sont idiots et qui n'y comprennent rien. S'ils sont idiots et qui n'y comprennent rien, c'est qu'ils n'ont pas perçu la valeur de l'offre. Dans ce cas-là, il faut réviser l'offre. Parce que même s'ils ne comprennent pas et qu'ils sont cons, ben on n'arrivera pas à le vendre.
Non, mais complètement d'accord avec toi. De toute façon, dire ça ne résout pas le problème, quoi. Donc, je ne me souvenais plus du tout de ce truc. C'est... Non, moi, j'ai un autre exemple. C'était un prospect. On n'a pas signé, mais parce qu'on n'a pas voulu signer, qui avait développé un produit qui s'adressait à des professionnels. C'était autour de la photo. Et globalement, il proposait un produit qui faisait la même chose que tous, mais à peu près 10 fois plus cher. Et donc, quand je demandais Pourquoi ? Bah oui, il y avait de l'innovation, il y avait plein de choses, mais je dis mais ok. Il me dit mais j'arrive pas à en vendre parce que il faut que je fasse de la publicité. Donc ça faisait 18 mois ou 2 ans qu'il essayait de le vendre, qu'il en parlait, et il se vendait toujours pas. Il disait mais en fait c'est parce que je fais pas assez de publicité, donc il voulait augmenter. Et en fait ce que j'ai fait comprendre, c'est que un produit qui se vend pas sans publicité, il se vendra pas mieux avec publicité. En fait s'il se vend pas, c'est parce qu'en fait il y a personne pour l'acheter. Et quand je dis qu'il se vend pas, c'est que en 2 ans il avait fait zéro vente. C'est pas qu'il en avait fait 2-3 poussivement, c'est qu'il en avait fait zéro en ayant tapé à plein de portes, en ayant montré son produit, en étant disponible sur Internet, tout ça. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les frais ou se poser les bonnes questions. Non, si ça se vend pas, c'est juste parce que le marché n'en veut pas. Ça arrive à plein de gens, ça arrive à plein de gens bien. On se détend, on révise son offre. Là où c'est dommage, c'est qu'il avait mis déjà beaucoup d'argent pour le développement de ce produit sans s'être vraiment posé la question initialement. Est-ce qu'il y a des gens pour l'acheter ? Ne faites pas cette erreur, même si elle est assez fréquente. Allez d'abord vérifier que ça se vend. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de marché.
Ou au moins qu'il y a un intérêt, quoi.
Oui, mais le fait qu'il n'y ait pas de marché, ça arrive. Je crois que c'était une des premières causes d'échec des startups, qu'il n'y ait pas de marché. Et tu te dis quand même, c'est grave, parce que ça veut dire, alors je crois que c'est 42%, ce qui me semble démentiel, c'est-à-dire qu'il y en a 42% qui n'ont pas pris la peine d'évaluer s'il y avait un marché ou pas. En général, tu as toujours quelqu'un pour te dire « Oui, mais regarde pour Nespresso, les études de marché avaient dit qu'il n'y avait pas de marché. Et en fait, ils l'ont fait. Et en fait, ça a quand même marché. » En fait, vous pouvez trouver plein de contre-exemples. Je veux dire, les gens ne voulaient
pas. Ou Apple, les gens ne voulaient pas de smartphone parce que ça n'existait pas. Oui, mais
il y a plein d'exemples comme ça.
On n'est pas tous Apple.
Voilà, mais dites-vous que peut-être vous êtes le prochain Apple, c'est juste plus improbable que probable. Mais je veux pas détruire l'innovation et l'envie d'innover, c'est pas du tout ça. Hein. Mais pour le lambda, l'entrepreneur lambda, on n'est pas trop dans le cas de Apple ou d'Henry Ford ou ces gens-là qui ont vraiment proposé une innovation dont personne, c'est pas qu'ils n'en voulaient pas, c'est qu'ils savaient pas que ça existait. Donc prenez le temps de vérifier un minimum qu'il y a des gens qui veulent bien acheter et qui ont une douleur par rapport à ça. Ok, on en a fait 3 déjà. Donc 3 causes d'échec. La quatrième me tient particulièrement à cœur parce qu'on n'en parle pas du tout assez. On parle souvent des product market fit, alors que finalement, la quatrième, je pense que c'est, on l'a vu autant que les autres. Quatrième raison d'échec, c'est les relations entre associés. Alors, je suis sûre qu'à, là, quand j'ai dit ça, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous, quand ils entendent ça, qui font une petite grimace en se disant « c'est clair », alors que vous ayez un associé ou pas. On a tous vu autour de nous des associés faire capoter leur boîte qui pourtant marchait probablement ou pas trop mal ou bien, bon, c'est peut-être encore pire quand la boîte marche mal, mais à tout stade, les relations entre associés, ça peut vraiment détruire une boîte et ça, nous, on l'a vraiment vu à plusieurs reprises. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Nous, on a la chance, Laurie et moi, d'avoir une bonne relation entre associés, peut-être parce qu'on est sœurs, mais je connais aussi d'autres associés qui ont une bonne relation et ils n'ont pas de lien de sang particulier, donc on peut parfaitement trouver le bon fit avec quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Et bien sûr, on peut aussi avoir un mauvais fit avec quelqu'un de sa famille, ça marche aussi. Donc, ce qu'on a vu, c'est par exemple qu'il y a des problèmes d'ego. Il y en a, alors ça arrive quand même assez souvent.
Ça, on l'a vu il n'y a pas si longtemps d'ailleurs.
Il y en a un qui ne supporte pas que l'autre soit plus mis en lumière, il y en a un qui veut prendre le dessus, il y en a un qui veut attirer plus l'attention, diriger et ne tient pas forcément compte de ce que pensent le ou les autres, ça crée des conflits. Et je vais être hyper honnête, Laurie comme moi, on a un détecteur à mauvaise entente entre associés, c'est hyper rapide. Ou mauvaise entente, ou on va dire friction.
Oui, mais ça, c'est palpable. Parfois, c'est vraiment très palpable, en fait, quand tu parles avec les... Parfois, c'est deux ou plusieurs, c'est palpable. Et du coup, je trouve que ça met mal à l'aise. Après, ça, c'est peut-être le côté hypersensible, tu vois. Il y a aussi, parfois, on s'en rend compte de l'extérieur, alors qu'eux n'en ont pas encore conscience, la vision qui est clairement pas alignée. C'est-à-dire que quand tu parles aux deux personnes, et que, par exemple, un truc tout bête, quand ils te parlent de leur entreprise et de leur vision de l'entreprise, ils n'ont pas la même. Je l'ai eu à plusieurs reprises. Donc, cette dissonance dans la vision, où tu vois qu'elle n'est pas alignée entre les deux, dans la perception qu'ils ont de leur entreprise, dans la vision qu'ils ont à moyen, long terme de l'entreprise. Alors, je suis pas forcément pour avoir des visions à 20, 30 ans, parce que ta vision peut évoluer aussi, mais on va dire qu'il y avait vraiment un gros décalage, je ne parle pas d'un tout petit décalage, il y avait un très gros décalage dans la vision d'entreprise. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré hein, à ce niveau-là, mais parfois, à l'extérieur, on s'en rend compte même avant les associés. C'est ça qui est drôle.
Bon, ce qui met mal à l'aise, c'est quand eux, ils n'en ont pas conscience, en fait, et que toi, des fois, tu lèves le poing et tu vois dans leurs yeux qu'ils réalisent qu'en fait, ils sont pas du tout raccord sur certains sujets. Donc, ça arrive assez régulièrement quand on fait des...
Et qu'ils disent, faut qu'on en discute.
Voilà, exactement. Alors, c'est sain. Moi, en fait, je trouve ça très sain quand ils disent, faut qu'on en discute, parce que tu te rends compte que quand on les accompagne et quand on fait, par exemple, tout ce qui est accompagnement autour de la stratégie, du positionnement, de la cible, tu te rends compte que ils se posent pas forcément les questions ensemble et du coup, ils sont pas alignés. Mais pour beaucoup, quand ils prennent le temps d'en discuter avec un conseil extérieur, souvent, ça peut être très constructif. Mais parfois, c'est trop tard. C'est-à-dire que si c'est vraiment irréconciliable, je veux dire, c'est... S'ils ne voient pas du tout les choses sous le même angle.
C'est comme une relation de couple, en fait. C'est qu'à un moment donné, si tu ne fais pas le travail de te réaligner rapidement, ou si tu ne fais pas le travail, bah, forcément, tu te sépares. Alors, avec des séparations plus ou moins, on va dire, en bonne entente. Mais malgré tout, ça reste un cap pour l'entreprise. Hein. C'est une crise pour l'entreprise quand il y a ça. Et il y a aussi eu le cas où un des deux associés a un problème avec la vente.
En général, c'est les deux. Hein. Chacun pense que l'autre va vendre, en fait. Et du coup, il compte sur l'autre pour le faire.
Exactement. Et chacun reproche à l'autre
de ne pas vendre. C'est hyper fréquent.
La vente, c'est quand même un gros truc. C'est la source de pas mal de frictions dans l'entreprise. En même temps, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Vendre quand tu es une entreprise. Mais quand tu es, par exemple, deux associés, j'imagine si nous, il n'y avait aucune des deux.
Tu voulais vendre. Alors que nous, c'est plutôt l'inverse. C'est du style, on se fait la compétition à celle qui signe le plus.
Oui, après, c'est vrai que pour la on prospecte, mais on n'est pas toutes les deux des acharnées de la prospection. Ceci dit, parce qu'on a quand même la chance d'avoir du business qui rentre. C'est-à-dire que par l'inbound, on arrive à avoir du business. Bon, enfin, on prospecte hein, quand même, on ne peut pas dire le contraire. Mais il n'y en a pas une qui reproche à l'autre de ne pas assez prospecter, tu vois. Et dans tous les cas, même s'il n'y en avait qu'une de nous deux qui le faisait, ou qu'on le fasse à tour de rôle, ce n'est pas aucune des deux qui le fait.
Mais justement, puisque tu abordes le sujet, moi, j'aimerais bien que tu me
prospectes. Qu'est-ce que tu vas me reprocher?
J'aimerais bien que tu prospectes. Non, je déconne.
On va pas se tirer la bourre. Hein. C'est sûr, savoir qui a le plus signé depuis le début de l'année. Parce que...
Qui a la plus grosse? Je ne sais pas, depuis le début de l'année. Ouais, peut-être toi. Hein. C'est peut-être toi, je pense. Quand même.
Ah oui, moi, je suis sûre.
Ouais, je suis sûre que c'est toi. Bah, écoute, bah, c'est
ça
bien.
Ça va, il me reste encore pas mal de mois.
Ouais, il me reste un peu moins de 9 mois, mais quand même, il me reste du temps. Pour.
En tout cas, les relations d'associés, ça peut être un souci. Ça peut être un... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'associer. Hein. Mais on a observé que ça pouvait être... Les mauvaises relations d'associés, ça peut être une cause d'échec.
Clairement. C'est pas ça peut être, c'est souvent une cause d'échec. Posez-vous bien toutes les questions avant de vous associer. Qui va vendre? Qui va faire quoi? Prenez des engagements. Après, on n'est pas des spécialistes des pactes d'associés, hein, mais ça peut valoir le coup aussi. Et résolvez vos problèmes d'ego. C'est-à-dire que si on a un qui est plus OK que l'autre pour prendre la parole, eh ben, dites-vous que c'est toujours bien pour la boîte de manière générale. Et si vous osez moins que l'autre, bah, c'est peut-être vous qui avez un problème pour le faire. Donc, en tout cas, moi, je suis là pour juger personne. Mais c'est tellement destructeur, ce genre de questions, pour rien, parce que là, vraiment, c'est trop dommage quand ça se passe comme ça, que, ben, voilà, il faut résoudre ces problèmes. Mais en fait, c'est là où tu te rends compte que quand tu entreprends, tu en apprends beaucoup sur toi-même, quoi. C'est vraiment une introspection de tous les jours, quoi. Moi, je vis toujours très mal que tu aies fait 3 fois plus de vues sur LinkedIn que moi. Je suis en thérapie depuis 3 ans à cause de ça.
Va falloir t'habituer. Et sinon, il y a encore une cause qu'on a observée, et c'est flambé, c'est cramé tout le budget. Alors, on n'est pas des financières, mais on sait gérer un budget. Quand bien même on est un gros ou un petit, ou un budget modéré, un budget, ça se respecte. Et c'est surtout qu'il n'y a pas forcément besoin de cramer le budget en partant à deux sur un salon à l'autre bout du monde, en première classe, par exemple, quand on n'a pas encore vraiment vendu son produit. Voilà.
On va juste spécifier ce que c'est cramer le budget. C'est pas l'investissement, c'est les dépenses. Il faut bien voir les deux. C'est qu'on parle vraiment de dépenses inutiles. Et en dépenses inutiles, par exemple, ce que disait Laurie, c'est partir à deux sur un salon où finalement, vous pourriez peut-être être seul, ou partir à trois alors que vous pourriez être que deux, et voyager en première classe, aller vous faire l'hôtel le plus sympa et finalement dépenser à peu près 3 fois plus que ce que vous auriez besoin de dépenser pour avoir le même résultat. Et ça, on l'a énormément vu, surtout chez les boîtes qui lèvent des fonds. On pointe personne du doigt, on ne donnera pas de nom, parce que de toute façon, ce n'est pas des noms que vous connaîtriez. Mais ça, c'est un truc qu'on a beaucoup vu. C'est ou des dépenses inutiles ou des investissements trop tôt, dans certaines choses beaucoup trop tôt. Par exemple, recruter massivement des personnes qui n'allaient pas forcément être occupées tout de suite. Et ça, le problème, c'est que ben, y a un gros décalage entre le moment où on lève les fonds et le moment où le cash il va rentrer. Et beaucoup d'entreprises n'en ont pas assez conscience qu'il faut tenir. En fait, le nerf de la guerre, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et tous ceux qui arriveront à tenir un jour de plus que concurrent, ils augmentent tous les jours et tous les mois ses chances de survie par rapport aux autres. Et donc, la gestion du cash est essentielle. Et quand, Laurie, je pense que tu es d'accord avec moi, quand tu parles de cramer le cash, c'est pas investir, c'est dépenser.
C'est dépenser. Il y a une grosse différence entre les deux. C'est aussi parfois, ce que j'ai vu, c'est vouloir se verser très rapidement un gros salaire, de grosses indemnités. Alors que bien sûr, on voudrait déjà être arrivé à cette étape-là, mais la réalité d'une entreprise, c'est que souvent, quand on est entrepreneur au début, parfois, il y en a, ils n'arrivent même pas à se verser un salaire. Mais moi, je suis quand même pour essayer de se verser quand même quelque chose rapidement. Mais se verser peut-être l'équivalent de notre salaire quand on était, je sais pas moi, directeur marketing. Moi, je le souhaite à tout le monde, mais la réalité est quand même assez autre, en fait. C'est rare de pouvoir directement très bien se payer. Et c'est dommage, justement, de faire ça et de pas dire, j'en garde une partie parce que j'ai quand même besoin de vivre, ok? Mais d'un autre côté, je dois aussi investir dans mon entreprise pour la faire grandir et lui faire tenir ses premières étapes. Elle va monter en puissance. Et elle va avoir besoin de ce cash pour monter en puissance.
Ou grandir ou tenir.
Exactement. Mais j'en ai vu se planter comme ça.
Alors ça, et les bureaux, ceux qui prennent des bureaux, genre on va prendre là parce que l'emplacement est trop bien, le loyer est élevé, mais c'est pas grave. Oui et non. Est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir 150 mètres carrés si t'es deux? Moi, je dirais plutôt non, mais... Tu vois, par exemple, nous, c'est un truc qu'on n'a jamais voulu, on peut en parler ici, c'est qu'on nous a souvent reproché ou questionné sur le fait qu'on n'ait pas des bureaux dans le meilleur quartier... Pour notre image, ce serait mieux. On est dans un quartier résidentiel. Et en fait, nous, on n'en a toujours rien à faire d'avoir des bureaux qu'on payait cher et qui étaient luxueux parce que ce n'est pas nécessaire pour notre image du tout. Donc attention, on n'est pas dans un taudis du tout. Il est très mignon, notre bureau. Hein. Il est tout propre. Il mériterait d'être un peu plus décoré parce qu'on est en train de le refaire. Mais il est clean. Il y a plein de gens qui y sont déjà venus et qui le trouvent mignon. Mais dépenser un maximum de budget pour louer des bureaux très chers, juste pour faire style, j'ai les moyens de me payer un bureau très cher, non, en fait, c'est pas du tout un critère pour nous.
Pour moi, ce serait une dépense inutile.
On parle de dépense et pas d'investissement. Parce que souvent, d'ailleurs, le plus terrible, c'est que ce sont des personnes qui dépensent beaucoup, mais qui investissent très peu. C'est ça qui est dingue. Alors, c'est l'inverse qu'il faut faire. Dépenser moins, investir plus. La différence, c'est que la dépense, c'est perdu pour perdu. L'investissement, vous pouvez attendre et vous devez attendre un retour sur investissement. Wow. On va pas. Alors ça rejoint un peu l'épisode que tu as fait avec Laure Matsouki.
Exactement. On vous les mettra dans les ressources d'ailleurs. Est-ce qu'il nous reste des erreurs?
Ouais, je crois qu'on en a 7 en tout. Là, je passe à la sixième. La sixième, je pense que vous allez tous acquiescer, c'est la vision court terme. Alors, c'est naturel d'avoir une vision court terme, mais c'est le fait de se dire, si j'ai pas des résultats dans les 2 semaines, 1 mois, c'est que la stratégie est pas bonne, donc je vais changer. Et donc, du coup, c'est le côté un peu girouette de la stratégie, de changer tout le temps. Et le problème, c'est que comme la stratégie est changée tout le temps et que les actions ne sont pas menées durablement, on ne peut absolument pas bénéficier de l'effet cumulé. Donc déjà, on ne peut même pas savoir s'il y avait potentiellement des résultats parce que c'est trop tôt. Et c'est impossible non plus de cumuler des résultats. Je prends un exemple, une campagne publicitaire. Une campagne publicitaire, pour beaucoup, ça doit donner des résultats immédiats. Ce serait bien si ça donnait des résultats immédiats. Ça arrive, parce qu'il y a toujours ceux qui te disent « Mais parfois, ça arrive !» Oui, parfois, ça arrive. Mais dans la majorité des cas, en 2 semaines, on n'obtient pas grand-chose. Ce n'est pas le miracle qui se produit. Souvent, Jean et Nay, ils disent « Ah, au bout d'un mois, j'arrête. » Ou « Au bout d'un mois, je vais arrêter de prospecter parce que ça ne marche pas. Mon offre, elle ne marche pas. » Ça, cette vision ultra court terme, c'est hyper, hyper destructeur. Mais pourquoi il y a cette vision court terme? C'est parce qu'on nous survend dernièrement, ces dernières années, le fait de pouvoir obtenir des résultats aussi rapides et aussi facilement. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu l'as observé aussi.
Et c'est vrai que parfois, ça déstabilise de se dire « je mène cette action et je n'ai pas de suite des résultats, donc il faut que je change ». Sauf que, comme tu l'as dit, non, les résultats, c'est rare qu'on les ait en 2 semaines, 1 mois. Et du coup, nous, souvent, ce qu'on suggère, c'est de raisonner certes sur des périodes courtes, c'est-à-dire que si ça marche pas, de pas attendre 1 an ou 2 avant de se dire non, effectivement, c'était pas la bonne décision. C'est pas l'inverse, c'est pareil. Faut pas s'obstiner non plus. Mais en règle générale, il faut quand même s'accorder 3 mois pour se dire est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Si on a mené des actions, si on n'a pas rien fait pendant 3 mois, mais si on se bouge à mettre en place des choses, s'il y a aucun résultat au bout de 3 mois, on peut commencer à se poser des questions. et se dire, bah, je vais ajuster, je vais affiner, voilà, il y a des trucs qui ne doivent pas marcher. De toute façon, pendant cette période-là, il y a forcément un retour du marché, hein, puisqu'on a quand même, on est quand même passé à l'action. Mais c'est sûr que deux semaines, on ne peut pas juger sur une seule action menée sur deux semaines. Ça, ce n'est pas possible.
Et ça, on le retrouve pas mal. Alors, moins chez les entrepreneurs plus... quand je dis entrepreneurs, c'est entrepreneurs et dirigeants d'entreprises qui sont déjà plus confirmés. Eux, ils ont cette maturité de dire, je sais bien qu'en moins de 3 mois, je ne peux pas espérer quelque chose. Mais parfois, quand c'est la première entreprise, qu'ils consomment un peu trop de certains contenus, de certaines personnes qui font croire des choses qui n'existent pas ou pas pour tous les secteurs d'activité, on ne citera pas de nom, et ben ça fausse un peu cette image. C'est comment ça, en 2 semaines, je n'ai pas déjà fait 3 ou 4 ventes à 10 000 euros. Bah non, en fait.
Oui, mais ça fragilise aussi ta confiance.
Oui, exactement. Ça fragilise la confiance et on va essayer autre chose. Et on n'est jamais en mesure d'arriver à le délai nécessaire pour commencer à obtenir des résultats. Bref, la vision court terme tue sur le long terme. Et la septième, je vais te laisser la dire parce que je pense que c'est celle-ci qui me tient le plus à cœur.
La septième, c'est les entreprises qui refusent d'investir dans le marketing. C'est pas qu'elles refusent catégoriquement, c'est qu'au départ, elles vont se dire, elles attendent trop longtemps, en fait. Elles vont se dire, non, ça fonctionne, j'ai le bouche à oreille, c'est trop tôt pour moi, je dois structurer mon entreprise. D'abord, ça, c'est le truc qu'on entend. Le business rentre parce que je suis recommandée de part et d'autre. Sauf qu'à un moment donné, je crache pas du tout sur le bouche à oreille, c'est un excellent levier de business. Mais quand il est le seul levier de business, c'est dangereux parce qu'on dépend, notre activité dépend entièrement des autres, de notre entourage, à nous apporter des opportunités. Et ça, c'est hyper dangereux parce qu'on n'a pas la main mise dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre réseau, bah, même s'il est très bien, à un moment donné, la source, elle se tarit. C'est inévitable. Enfin, après, il y a plus ou moins rapidement. Il y en a, ils arrivent à tenir des années et des années comme ça. Mais finalement, ils vont s'en contenter. Et puis, ça va commencer à diminuer un peu. Tu sais, ce truc où ça s'effrite. C'est pas grave, c'est une mauvaise année. C'est pas grave, machin. Mais et finalement, il y a un moment donné où on tire la sonnette d'alarme en disant, on ne peut plus uniquement compter sur le réseau. Sauf que c'est des années où on n'a pas communiqué, où finalement, les gens savent pas forcément qui on est. Et dans ce cas-là, on va vouloir commencer à mettre en place des actions marketing et avec d'énormes attentes. Et je dirais presque parfois, c'est trop tard.
C'est pas presque parfois, c'est que parfois, c'est trop tard. Parfois, bah, toi comme moi, tu gères des prospects, tu as des prospects qui arrivent, ils te font part de leur situation. Bah, en fait, c'est le stade terminal, tu peux pas. Et en fait, il faut même pas y aller parce qu'on ne peut pas les sauver. Ce qui doit être mis en place est tellement grand. Et demande des délais, puisque ça rejoint ce qu'on disait avant. Comme pour commencer à avoir des résultats, bah, ça prend un peu de temps. C'est du temps qu'ils n'ont plus. Et donc, comme c'est du temps qu'ils n'ont plus, bah, on ne peut pas les aider. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Alors, il y a le côté bouche à oreille. Et ce que je vois aussi quand même pas mal, c'est le côté, on s'est développé sur un marché où on était un peu tout seul. C'était pump it up. Et bah, le marché était cool. Donc, il y a plein de nouveaux entrants. Donc, les nouveaux entrants, eux, par contre, ils bénéficient de ton expérience. Mais eux, ils mettent en place des stratégies marketing. Ils se trouvent un positionnement. Ils sont aussi plus agressifs en termes de prospection, d'action marketing. Et ils grattent des parts de marché petit à petit. Parfois, c'est des plus gros acteurs qui se lancent dedans. Et c'est là où certaines entreprises qui étaient, je ne dis pas dans un monopole, mais un petit oligopole ou de moins dans un océan bleu, elles se retrouvent, mais alors désarmées. Et j'en ai encore eu un au téléphone il n'y a pas très longtemps et qui te dit, je ne l'ai pas vu venir, j'étais hyper confort et là, il y a tout le monde qui débarque, sauf que moi, je ne suis personne, je n'ai rien fait en marketing. Alors lui, ça va parce qu'il s'est réveillé assez vite. Mais pour beaucoup, quand il se réveille, c'est trop tard. Et alors, je vous le dis, hein, vous êtes dans cette situation et que quelqu'un vous dit, non, mais c'est bon, dans un mois, je te redresse la barre. Non, personne ne redresse la barre en un mois. C'est pas vrai.
Ça veut pas dire qu'on va couler nécessairement, mais il faut serrer les dents parce qu'en mettant en place des actions marketing, ça va quand même.
Il va falloir aller emprunter de l'argent, surtout pour financer ça. Vous ferez pas avec 2 500 euros qui vous restent dans votre trésorerie. C'est pas possible. Donc, c'est un peu cruel, hein, ce que je dis.
Merci,
un peu
merci pour cette conclusion très cash.
Non, mais c'est vrai. Il faut pas attendre. Il faut vraiment pas attendre. C'est comme un peu quand t'es malade, quand tu commences à avoir des symptômes. Pas que un, mais plusieurs symptômes, il ne faut pas attendre pour aller consulter parce qu'on peut t'annoncer une super mauvaise nouvelle et que c'est trop tard. Alors, c'est un peu horrible ce que je dis, mais
C'est comme quand tu soignes pas ton rhume et qu'il se transforme en grosse sinusite, quoi. Tu vas pas guérir de la même façon aussi rapidement.
Mais c'est pas fatal, la sinusite. Il y a encore des traitements pour la sinusite. Moi, je parle de maladies beaucoup, beaucoup plus graves qu'une sinusite.
Mais tu vas devoir sortir un peu plus d'artillerie lourde, quoi.
Oui, voire parfois, c'est juste trop tard. Et c'est une réalité. Dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment une réalité. Et c'est pas parce que votre entreprise a été florissante un jour qu'elle est florissante toujours. Et l'erreur, c'est de se dire, tant que ça va, j'investis pas dans le marketing. C'est l'inverse, en fait. C'est pas j'investirai dans le marketing le jour où je serai grande, où mon entreprise sera grande ou plus importante. C'est parce que vous investissez dans le marketing que votre entreprise va grandir ou être plus stable, durable. Voilà, c'est vraiment l'inverse. Dites-vous que des boîtes comme, alors on parlait tout à l'heure d'Apple ou Google, mais alors c'est pas forcément des exemples que j'aime particulièrement, mais prenez toutes les entreprises les plus pérennes du marché, elles ont investi dans le marketing. Elles sont pas là parce qu'elles ont de la chance. Il n'y a pas que le marketing, attention, il y a la gestion financière, le recrutement, évidemment, il y a plein de choses. Hein. Mais elles n'ont pas attendu d'être à un haut niveau pour le faire.
Je sais qu'un de nos clients avec qui on travaille depuis des années maintenant, ça fait au moins 8 ans qu'on les assiste dans leur marketing, où vraiment on a pris en toute la direction marketing de l'entreprise. Ils ont une très bonne gestion financière. Donc, de point de vue là, c'est des très bons dirigeants pour la partie financière. Et même s'ils avaient anticipé que le marché allait se tendre pour eux, que leur marché allait se tendre, ils n'ont jamais coupé leur budget marketing totalement. On a toujours continué à collaborer ensemble parce qu'ils savaient que pour eux, c'était indispensable de continuer d'avoir cette présence pour pouvoir faire la différence par rapport aux concurrents du marché.
Je crois qu'on a fait le tour sur les causes d'échecs qu'on a le plus souvent rencontrées chez My Marketing Experience et qui, à mon avis, rassemble à peu près les causes d'échecs les plus fréquentes qu'on peut observer. Là, on vous a fait un rétrospectif sur à peu près 14 ans. Donc, vous avez quand même un bon aperçu. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur LinkedIn sur quelle est votre vision. Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce qu'il y a des raisons d'échecs que vous avez particulièrement vues? Est-ce qu'on a une qu'on aurait oubliée? N'hésitez pas à nous le dire. Pensez aussi à nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de podcast de votre choix. Pour soutenir My Marketing Podcast, ça nous fait très plaisir et surtout, ça nous aide énormément à continuer de faire connaître My Marketing Podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt !